matinale d'Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour nous réveiller en info, en musique et dans la bonne humeur. C'est le triptyque magique, la marque de fabrique de ce 5-6 qui, je l'espère, rend chaque matin vos zygomatiques un peu plus toniques. Allez, trêve de rimes frénétiques, place au journalistique, aux chroniques, à la zic, ouvrons la boutique. Ma chère Ombline.
I'm fine, thank you. Hello.
Good morning, Miss Rush.
Good morning, Julia.
La musique, vous allez la sublimer dans votre partition à 6h-10. Qu'est-ce qu'il y a au programme ?
Il se proclamait roi du rock'n'roll. Il disait : je suis l'initiateur, celui qui le personnifie sans lui. Pas de Beatles, pas d'Elvis Presley, pas de James Brown, pas de funk. Le flamboyant Little Richard.
Si avec ça vous n'êtes pas encore sorti du lit, on ne sait plus quoi faire. Little Richard, ce sera dans 50 petites minutes sur Europe 1. Vos rendez-vous d'infos de ce 5-6, on va s'intéresser à tous ces nouveaux déchets que nous générons depuis le déconfinement. Masques chirurgicaux, gants, latex, visières de protection, que du plastique ou presque. Vous avez sûrement vu cette image sur les réseaux sociaux de masques déjà retrouvés au fond de la Méditerranée. Alors la crise du Covid va-t-elle également provoquer un désastre écologique? On va en parler avec mon invité à 5h40, Laura Châtel, responsable du plaidoyer de l'association Zero Waste France. À 5h25, les doigts dans l'assiette. Le quotidien de tous ceux qui nous font manger, on va aller prendre des nouvelles d'Alex, notre éleveur de cochons. Et puis à 5h15, le pressing, votre revue de presse décalée, avec au menu notamment non pas du cochon, mais les nouveaux mots qui font leur apparition dans le Robert. La météo de ce jeudi 28 mai, c'est avec Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour à tous. Allez, un petit coup d'œil sur la carte de France ce matin. Tiens, elle ressemble à celle d'hier. Un ciel dégagé, des vents de nord-nord-est, avec une petite particularité pour cette journée, puisque cette journée sera ensoleillée, vous l'avez compris, nous aurons du vent marin sur Languedoc-Roussillon. Mais vraiment, c'est la seule particularité. Le reste, bah, comme hier, entre 20 et 30 degrés les températures.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, et à tout à l'heure. C'est parti pour votre premier journal de cette matinale.
Europe 1, il est 5h.
Rouge, vert, ce que je sais, c'est qu'on va devoir dire à nos concitoyens et aux franciliens qu'en fait, à tout moment, si les indicateurs se dégradent, on doit pouvoir revenir en arrière.
Édouard Philippe présente aujourd'hui la nouvelle carte pour la phase 2 du déconfinement. L'Île-de-France pourrait passer du rouge au vert. Pourrait, car certains indicateurs restent inquiétants.
Nous irons dans une autre zone rouge, le Haut-Rhin, où un collège d'ores et déjà prêt à retrouver ses élèves.
Nous irons également au restaurant, un mètre entre chaque table, serveur ganté. Alors dans ces conditions, rassuré ?
Si les espaces sont respectés, là ça va m'inciter à revenir et en plus ça me manquait. Et je pense au secteur de la restauration, c'est important pour eux.
Elle avait qualifié de mascarade la tenue du premier tour des municipales en pleine épidémie. Agnès Buzyn, la candidate à la mairie de Paris, fait son mea culpa.
Moins de stress, plus de verdure. Le confinement à la campagne a convaincu certains Parisiens de ne plus jamais remettre les pieds dans la capitale.
Si on m'avait dit que je ne reverrais pas mon appartement, ah, je n'aurais pas cru, parce que je suis toujours pas rentrée chez moi. Hein, et l'appartement est en vente.
5h01 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une étape que l'on attend tous, la phase 2 du déconfinement, avec à la clé de nouveaux assouplissements des contraintes sanitaires.
Édouard Philippe va présenter à 17h les arbitrages retenus, ainsi que la nouvelle carte de l'épidémie en France.
Carte que vont particulièrement scruter les habitants des quatre régions toujours en rouge, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. La principale incertitude concerne la région capitale. La plupart des indicateurs progressent, mais cela sera-t-il suffisant pour passer en vert ? On a posé la question à Aurélien Rousseau, le patron de l'agence régionale de santé d'Île-de-France.
on a moins de passages aux urgences pour suspicion de Covid, on a moins d'appels au SAMU pour suspicion de Covid, on a moins de patients hospitalisés avec le Covid. Le nombre de tests positifs, il est lui aussi assez faible, puisqu'il est en moyenne 2,66% dans la région. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Mais dans le même temps, on a toujours 666 personnes qui sont en réanimation avec le Covid. On a plus de 7000 personnes hospitalisées. Donc, on est dans un système qui reste sous tension. Moi, aujourd'hui, rouge, vert, ce que je sais, c'est qu'on va devoir dire à nos concitoyens et aux franciliens qu'en fait, à tout moment, si les indicateurs se dégradent, on doit pouvoir revenir en arrière.
On l'entend donc, le patron de l'ARS Île-de-France reste prudent, tout comme le gouvernement. Les derniers arbitrages étaient toujours en cours hier soir.
Alors Eve Roger, est-ce que l'on sait ce matin à quoi va ressembler la carte de France qui sera présentée tout à l'heure par le Premier ministre ?
Eh bien, la carte serait tout en vert à deux exceptions près, Paris et le Val d'Oise, si les indicateurs retenus étaient toujours les mêmes. La capacité à faire des tests, la pression dans les services de réanimation et le passage aux urgences pour suspicion de Covid. Mais une carte trop optimiste ne serait pas conforme à la réalité, car le virus circule encore, que ce soit dans les zones rouges ou vertes. On le voit d'ailleurs dans la cinquantaine de clusters éparpillés aux quatre coins de la France. Alors pour illustrer cette circulation à bas bruit, le Premier ministre pourrait présenter une carte inédite qui prendrait en compte pour la première fois le nombre de tests positifs par département. Carte qui pourrait pointer plus précisément les zones à risque. Et puis toujours la carte classique, rouge et verte à l'échelle régionale, où seule l'Île-de-France pourrait rester en rouge à cause de ses 7000 patients hospitalisés, dont plus de 600 encore en réanimation.
Eve Roger, et à ce sujet, ne manquez pas à 8h15 l'interview politique. Sonia Mabrouk reçoit Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Vous pourrez lui poser vos questions, hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux ou 3921 pour intervenir directement à l'antenne.
Direction maintenant le Grand Est, autre région qui a été durement touchée par l'épidémie.
Tous les indicateurs y sont désormais encourageants, alors forcément sur place, on espère du vert pour tourner la page de ces dernières semaines et reprendre une vie normale. On s'y est même déjà préparé, comme l'a constaté Arthur Nbaché dans ce collège d'Ilzac, dans l'agglomération mulhousienne.
Voilà une salle de classe qui est prête pour l'accueil des gamins.
Tout est prêt, le collège Jules Verne dans les starting blocks.
Pour les profs, nous allons mettre à leur disposition du matériel de désinfection.
Nous sommes ici encore ce matin en zone rouge, mais le principal, M. Rabouin, et ses impatientes équipes sont prêts à dégainer.
Ah ben oui, on ne peut pas attendre, parce que si on devient vert, on ne va pas commencer à attendre le lundi pour réfléchir à ce qu'on doit faire, ou même vendredi. Ben oui, les gamins sont confinés depuis le début mars maintenant, c'est-à-dire 3 mois consécutifs à la maison, alors je ne dis pas que chaque jour compte, mais enfin, il y a des gamins qui ont complètement abandonné le travail scolaire. Alors c'est vrai que le Haut-Rhin a beaucoup souffert de l'épidémie. Il faudrait éviter cette forme de double peine qui serait à la fois sanitaire et scolaire.
Les élèves garderont leur table, leur chaise toute la journée.
Céline est la maman d'un collégien orinois.
Lavage de mains obligatoire toutes les 2 heures.
Et elle aspire, même ici, au cœur de la crise qui peut-être s'achève, au retour d'une vie un peu plus normale.
Oui, le plaisir tout simplement d'être maman et de les retrouver avec le soir au goûter et de parler de leur journée. Voilà, ça manque aussi.
Après consultation des parents et si le rouge devient du vert, un élève sur 4 sera là à Jules Verne la semaine prochaine. Mulhouse, Arthur Nbaché, Europe 1.
Vous le dévoilez hier matin, les restaurants pourraient rouvrir en zone verte dès mardi prochain, mais sur la base d'un protocole assez strict.
1 mètre entre chaque table, un même serveur pour tout le repas, serveur qui devrait être ganté ou se laver les mains toutes les 30 minutes.
Alors, est-ce que ces règles assez contraignantes, il faut bien le dire, sont à même de vous rassurer? Êtes-vous prêt à retourner au restaurant? Justin Morin s'est promené à l'heure du pique-nique au bois de Vincennes pour vous poser la question.
C'est pas grave, il faut qu'ils ouvrent les restaurants.
On va leur dire oui pour tout, vous avez raison, et après on verra.
À la table, dépliée sous un arbre de Simone, Janine, Bernard, Hubert et Claire, je peux vous dire qu'il y a débat sur ces nouvelles règles.
Moi, le 1 mètre, je trouve que c'est très bien, pour garder peut-être un peu d'intimité.
Non, mais c'est pas que le mètre, c'est tout le cérémonial qui avance, s'asseoir, se laver, machin, l'ardoise, il n'y a pas de menu papier, il n'y a pas...
Au-delà de toutes ces contraintes, si ça ne devient plus un lieu de détente, ça va devenir compliqué. Est-ce que ce sera toujours la fête?
Conclusion. On attend de voir. Un peu plus loin.
Je suis prête à revenir.
Virginie veut faire confiance aux restaurateurs.
Si les espaces sont respectés, là, ça va m'inciter à revenir. Et en plus, ça me manquait. Et je pense au secteur de la restauration, c'est important pour eux.
Même volonté d'aider le secteur chez Chloé et Alice, mais elles ne se précipiteront pas en salle.
Regardez, il y a plein de restaurants qui font des livraisons à domicile, etc. Donc au lieu d'aller se faire livrer chez McDo ou chez Quick, eh ben, on prend le petit resto en bas de chez nous, quoi. On s'adapte à notre mode de vie.
Selon elle, ça permettrait aussi de combler le manque à gagner, entraîné par la distanciation sociale.
Europe 1, il est 5h06.
Après plus de deux mois d'absence, Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, fait son retour sur la scène politique avec un mea culpa.
La candidate de La République En Marche à la mairie de Paris avait pendant le confinement qualifié de mascarade la tenue du premier tour des municipales en pleine épidémie.
Des propos qu'Agnès Buzyn regrette ce matin dans le Figaro, Jean-Gabriel Bourgeois.
Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Agnès Buzyn s'explique sur ce mot « mascarade » lâché dans Le Monde le 17 mars. C'était certainement trop fort, regrette la candidate. Dans un long entretien au Figaro, elle avoue avoir réagi à chaud après le scrutin, choquée par les tractations d'entre-deux tours qui lui paraissaient inappropriées, déconnectées de la vie des Français, alors que l'épidémie de coronavirus s'amplifiait. L'ex-ministre de la Santé reconnaît avoir eu, à l'époque, l'intime conviction que le second tour ne pourrait pas avoir lieu. Ce n'était pas une certitude, mais un pressentiment, une intuition forte, ajoute-t-elle. Le maintien de l'élection, elle ne le reproche pas au président ou au premier ministre dont elle salue le travail pendant la crise. Après avoir beaucoup réfléchi, Agnès Buzyn reprend donc la campagne et se dit prête à se défendre devant une commission d'enquête parlementaire. Agnès Buzyn se montre combative malgré les attaques. La candidate vit désormais sous protection policière. Elle dit avoir été menacée et victime d'agressions verbales et physiques.
On va maintenant vous raconter l'histoire de ces Parisiens qui ont vu le confinement changer leur vie.
1 million de Franciliens ont quitté la capitale et ses environs au plus fort de la crise. Combien ne vont jamais revenir ?
La verdure, de plus grands espaces, le télétravail aussi. Ils y ont pris goût à tel point, Carole Ferry, que certains ont franchi le pas, la grisaille parisienne, plus jamais.
Si on m'avait dit que je ne reverrais pas mon appartement, je n'aurais pas cru, parce que je ne suis toujours pas rentrée chez moi, et l'appartement est en vente.
Au départ, cette maman d'un petit garçon de 3 ans est juste partie le temps du confinement en Bretagne avec son mari. Elle est au chômage, lui est indépendant. Au final, aujourd'hui, ils n'attendent plus que la vente de leurs 60 mètres carrés Gare Saint-Lazare à Paris pour acheter une maison à Douarnenez.
C'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup. Il a fallu qu'on s'imagine ici à l'année. Et on a eu 2 mois et demi pour le faire et on a fait ça pour notre petit garçon. Pendant tout ce confinement, on l'a vu se métamorphoser, évoluer dans la campagne, dans la nature. On est en bord de mer et ça le métamorphose.
La demande est particulièrement dynamique près de Paris. Nicolas Maître-Jean est agent immobilier à Chartres. Il a fait 30 ventes en 15 jours, un tiers à des Franciliens.
Avant le confinement, les demandes de Parisiens, de Franciliens étaient peu significatives, on en avait quelques-uns. Aujourd'hui, on a vraiment une vraie poussée de la demande. En majorité, des gens qui cherchent à changer de vie, puisqu'à 80% des demandes, ce sont des gens qui veulent acquérir leur résidence principale.
Des Franciliens qui arrivent avec un budget moyen de 360 000 euros, bien supérieur aux 220 000 euros de vente qui se font en moyenne d'ordinaire à Chartres.
Carole Ferry, en bref, Boeing a annoncé avoir repris la production du 737 MAX, modèle qui n'a plus volé depuis plus d'un an après 2 accidents ayant fait en tout 346 morts. Le constructeur américain n'a toutefois pas précisé la date de remise en service de son avion. Et puis après une journée de suspense, le premier vol habité de la société américaine SpaceX a finalement été reporté en raison du mauvais temps en Floride, orages et foudres au-dessus de Cap Canaveral. Prochaine fenêtre de tir pour les 2 astronautes de la NASA samedi.
Il est l'un des principaux responsables des attentats terroristes de 1995 dans la capitale. Boualem Ben Saïd, 52 ans, demande sa remise en liberté conditionnelle.
Elle sera examinée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le terroriste algérien a déjà purgé 25 ans de détention et il voudrait désormais rentrer dans son pays. Guillaume Bier.
Son nom est indissociable des attentats de 95. Boualem Ben Saïd, poseur de bombes au RER Saint-Michel et avenue d'Italie, complice de l'attentat de la station Musée d'Orsay. Au total, 8 morts et près de 200 blessés. Figure du terrorisme islamiste, membre du GIA, Boualem Ben Saïd a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Ça fait maintenant 25 ans qu'il est derrière les barreaux. Un détenu modèle, d'après son avocat, qui plaidera tout à l'heure sa libération conditionnelle. C'est la première fois que la justice examine son éventuelle remise en liberté. Sa précédente demande, il y a 3 ans, n'a jamais été étudiée. S'il obtient gain de cause, Boualem Ben Saïd ne serait toutefois pas libre sous bracelet électronique. Il serait expulsé vers l'Algérie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il souhaite, retourner dans son pays où ses crimes pourraient être amnistiés. C'est ce qu'espèrent éviter les victimes des attentats et leurs familles. Avant l'audience, les services pénitentiaires et la commission des mesures de sûreté ont rendu un avis défavorable à sa sortie de prison.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Les touristes venus de zones rouges seront-ils les bienvenus dans les départements épargnés par le coronavirus ?
Certains trouvent d'ores et déjà porte close, comme l'a raconté à Marion Gauthier cet Alsacien qui s'est vu refuser des vacances dans un gîte breton.
On est tous sur le même bateau, on n'est pas des pestiférés, qu'on fait attention à nous. J'arrive pas comme ça, meurtrier en puissance sur des terres vierges.
La forêt de Brocéliande gardera ses mystères. Jacqueline Decker ne décolère pas. Le premier échange téléphonique avec le propriétaire de ce gîte avait pourtant été bon.
Je lui ai confirmé ça par mail et puis je reçois une réponse où il me dit qu'il s'est concerté avec son épouse et que, bah, comme on est en zone rouge, et que c'était pas possible, que j'étais en quelque sorte dangereux.
Ce n'est pas lui le danger, c'est la situation, se défend l'hôte. Contacté par téléphone, ce père de famille assume sa décision. Principe de précaution oblige. Il préfère ne pas rouvrir qu'être responsable de la contamination d'un client. Pas convaincant pour celui à qui il vient de refuser le gîte.
Je l'ai pris comme une porte dans la figure. Pour moi, vivre dans une zone rouge, c'est être responsable par rapport à des consignes sanitaires.
Ce n'est pas être interdit de tourisme. Jacques a d'ailleurs rapidement trouvé une nouvelle hôtesse à Guérande, ravie d'accueillir des vacanciers venus de la même région que son mari. Le Grand Est, comment Sésame.
Marion Gauthier.
Europe 1, il est 5h12.
Vous aimez les chevaux, Mouline ?
Oui, bien sûr.
Comme beaucoup de nos auditeurs, et c'est tant mieux parce qu'on passe aux courses avec Thierry Léger et son pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville et mon pari gagnant sera le 409, Kaline. Elle vient d'effectuer d'honorables débuts à Saint-Cloud en concluant sixième sur une distance de 1600 mètres, certainement un peu trop longue pour ses aptitudes. Son maître-entraîneur Freddy Head va la présenter cette fois sur 1400 mètres, ce qui devrait lui permettre d'exprimer tout son potentiel et je sais qu'une victoire est fermement attendue. Alors notez bien, pour cet après-midi à Clairefontaine-Deauville, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 9, Kaline.
Kaline, c'est noté, merci Thierry Léger, et à tout à l'heure dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
Ils ont corné toute la nuit les pages de vos journaux, entouré les articles les plus surprenants. C'est le Pressing, votre revue de presse décalée avec, comme chaque matin, Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Je suis toujours en train de lire les journaux.
On va commencer avec vous, Paul, vu que vous faites le malin. Quel article avez-vous sélectionné?
Alors, on apprenait la semaine dernière les nouveaux mots qui entraient dans le Larousse 2021. Et bien ce matin, le Parisien nous révèle ceux qui vont entrer dans le Petit Robert qui sortira le 4 juin. Évidemment, le Covid-19 tient le haut du pavé, mais d'autres termes moins anxiogènes font leur entrée. Encore que, puisque le premier cité par le Parisien est le mytho, celui qui ment, pour ceux qui...
Ah, ça y était pas déjà?
Oui, c'est ce que j'ai voilà, étonné.
Pour moi, c'est la vraie surprise, c'est d'apprendre qu'il n'y figurait pas encore. Alors, on a beaucoup parlé pendant le confinement, notamment avec les artistes, les cours de sport ou les cours de cuisine. La story. La story, c'est une brève vidéo ou image publiée par un internaute sur un réseau social et visible pendant une courte durée. Story, qui est un anglicisme, et ce n'est pas le seul, puisqu'apparaissent aussi les mots blacklisté, donc placé sur une liste noire, spammé, envoyer des spams.
C'est-à-dire
c'est des courriels, j'utilise un mot.
Publicitaires.
Voilà, des mails publicitaires ou quoi, ou qu'est-ce. Veggie également, pour végétarien.
Ah, donc, oui.
Ils auraient simplement pu laisser végétarien, mais ils ont décidé d'innover. La collapsologie également.
C'est quoi?
Alors, c'est le courant de pensée annonçant une catastrophe écologique imminente et l'effondrement de la civilisation industrielle.
Donc comme le verbe collapse en anglais, voilà, quoi. Effondrement, d'accord.
Brainstormer.
Oui, c'est trouver des idées.
Brainstorming, rechercher des idées en groupe. Autre catégorie, l'amour qui se développe dans les pages du Petit Robert. Le sexto.
Ouais.
Le texto à caractère sexuel, le pansexuel.
Le quoi ? Ah oui, bah oui.
Dont le désir, l'attirance sexuelle ou sentimentale ne se limite pas à un sexe ou à un genre en particulier.
D'accord.
C'est une sorte de bisexualité,
oui,
si
finalement.
On résume. Polyamour.
Ah oui.
Ah, c'est pas la même chose alors.
C'est comme la polygamie. Voilà, le fait d'avoir plusieurs relations amoureuses en parallèle.
Oui, mais c'est sentimental.
Avec le consentement de chaque partenaire. Je vous laisse.
Sauf que la polygamie, c'est quand on est marié avec plusieurs femmes.
Voilà.
Ou après plusieurs hommes, j'en sais rien. Mais...
après l'amour.
Amblin, un avis ?
Non.
Après l'amour, quoi de mieux qu'un bon gueuleton, pardon. Le mochi. Est-ce que vous savez ce qu'est le mochi ?
C'est un gâteau japonais, non ?
Alors, c'est une espèce de glace japonaise, une petite boule de pâte de riz gluant avec une glace dedans. Le crémet, qui est une spécialité laitière à la crème. Le dal, un plat indien à base de lentilles cuites avec des légumes et des épices. Et le mocktail.
Non.
C'est quoi ça ?
C'est un cocktail sans alcool.
Ah, le mocktail.
D'accord. Voilà, et comme dans toute bonne cuvée des dictionnaires, il y a aussi les personnalités qui font leur entrée. On a Lady Gaga d'un côté et celle qu'on surnomme Queen Bee de l'autre. Beyoncé. Oui, surprenant.
Oui, je suis étonnée
comme
qu'elle
le
n'y soit
mytho,
pas aussi, ouais.
C'est surprenant qu'elle n'y soit pas.
Bah, Lady Gaga aussi.
Oui, Lady Gaga aussi.
Ça fait quand même 10 ans que...
Oui, Beyoncé, le double, hein, c'est dans ton carrière.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson également, ou notre amie, la jeune militante écolo-suédoise.
Greta Thunberg. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup, Paul Lassène. Ombline Roche, à
quand,
vous.
Quand vous allez voir un film romantique au cinéma, vous vous attendez à quelques scènes d'amour.
Êtes-vous
jolie,
mes fesses?
Oui.
Oui, bien sûr. Tu les regardes à un mètre de distance, s'il te plaît. Quand vous allez voir un film d'action, vous vous attendez à une bonne scène de bagarre.
Quoi ? Début du deuxième round. Jusqu'ici, pas de combat, faut d'un vrai combattant.
Oui, mais Rocky ne sentira pas par la chance, il a reçu un déluge de bombes.
En placeur, Rocky !
Rocky Balboa essaye de se maintenir au centre du ring face à ce géant russe.
Ouais, ben non, on arrête la boxe. Trop de contact, trop de sueur. Trop de fluide échangé. Préféré, mesdames et messieurs les réalisateurs, un art martial avec la distanciation physique de rigueur comme le wushu ou le tai chi. On apprend dans le Huffington Post que le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production des films, c'est un comité avec un nom très long, ce comité a diffusé un guide des préconisations à respecter pour la reprise des tournages. Le mot d'ordre, limiter les contacts, respecter les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Ce comité, le CCGSCT, recommande donc l'adaptation de certaines scènes prévues au scénario ou dans la narration pour celles qui présentent un risque de rupture de cette distanciation d'un mètre. On évite les baisers, les embrassades, les plans de foule, les bousculades et autres bagarres. Si possible, utiliser des effets spéciaux et des inserts numériques ou alors réécrivez carrément les scénarios. Autre recommandation pour, tout, oui, pour tout ce qui est maquillage et habillage, des acteurs devront se débrouiller seuls. Voilà des conditions plutôt contraignantes pour une reprise des tournages. Ça ne devrait pas trop durer en tout cas. Pour le rappel, le ministre de la Culture, Franck Riester, a acté la mise en place d'un fonds d'indemnisation de 50 millions d'euros pour permettre cette reprise des tournages. Alors pas sûr qu'avec toutes ces préconisations, le CCGSCT, le comité d'hygiène, avec ces préconisations, donc les équipes du cinéma soient pressées de retourner sur un plateau. C'est dans le Huffington Post.
Oui, c'est assez sidérant quand même.
Exactement.
Merci beaucoup, Ombline Roche. J'ai choisi pour ma part une histoire positive, pour une fois. Cet article du Figaro.fr nous emmène dans un sympathique quartier résidentiel de la ville de Portland, aux États-Unis. Tout est très propre, les pelouses tondues au millimètre, bref, tout est impeccable, sauf cette petite maison blanche, là, quelque peu défraîchie. C'est ici que vivent les Landrettes, une charmante famille qui, depuis quelques mois, se déchire autour d'une question fondamentale. De quelle couleur allons-nous repeindre la maison ? Les Landrettes n'ont pas fait appel à Valérie Damido pour les conseiller. Non, ils ont fait appel à leur voisin. C'est en aidant sa fille à terminer un projet scolaire autour du recueil et du traitement de données que Brian, le père, a eu l'idée de lancer un sondage dans le voisinage pour déterminer la bonne teinte à choisir pour sa maison. L'occasion aussi, dit-il, de faire sourire les voisins et d'engager la discussion avec eux. Alors pour ce faire, Brian a peint sur la façade de la maison 5 échantillons correspondant aux 5 couleurs favorites de la famille. Et puis juste à côté, il a installé un panonceau avec un QR code et ce message, flashez-moi avec votre téléphone, vous aurez ainsi accès au sondage en ligne. Le procédé a été plutôt bien accueilli dans le quartier. Une soixantaine de voisins ont rapidement tranché entre des couleurs aux noms exotiques comme montagne rocheuse, orchidée sauvage ou bleu béni. Sauf que rapidement, la machine s'est quelque peu emballée lorsque la photo de la maison a été diffusée sur les réseaux sociaux par un voisin qui trouvait la méthode amusante. Et là, ce ne sont plus quelques dizaines de réponses qu'ont recueilli les Landrettes, mais des dizaines de milliers venant du monde entier. Une internaute a notamment fait suivre des images de sa maison en Argentine dans une teinte très proche de l'une des propositions. Une autre a mis à profit sa maîtrise de Photoshop pour retoucher la photo de la maison dans les 5 teintes proposées. D'autres n'ont pas hésité à se préoccuper également de la couleur des encadrements de portes et de fenêtres. Bref, autant de contributions qui ont quelque peu retardé le dépouillement. Morale de l'histoire, on est tous un peu Valérie Damido.
Après, la couleur de la maison dans un quartier, ça concerne aussi les voisins, je trouve.
Mais là, parce en l'occurrence, il n'y avait pas de règle.
Non, mais quand on a son voisin qui a une maison rose saumon, parfois c'est fou. Quand on sort des chaussettes, c'est un peu dur. Bien sûr,
on est aux États-Unis, pays de la liberté.
Oui, non, mais bien sûr.
Le libre arbitre.
Non, mais bien sûr, mais c'est sympa de demander l'avis des voisins. C'est ça que je veux dire.
C'est très sympa.
Voilà.
Voilà.
Vous ne voyez pas le mal dans mon.
Oui, mais les voisins peuvent être malveillants et vous choisir une couleur pas très.
Ah, oui, non, mais moi, je.
Non,
vis
mais
dans
si vous choisissez celle que vous préférez, oui. À la limite,
ouais.
Vous ne savez pas prendre une décision. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est assez sympathique. Le pressing baisse son rideau pour aujourd'hui. Merci les amis, merci Paul Lassen. On va passer dans un instant au doigt dans l'assiette et prendre la direction des Pyrénées-Orientales où Alex, notre éleveur de cochons, nous attend de pied ferme.
Il fait partie de ces artistes qui ont agrippé leur guitare, ont chanté sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Benjamin Biolay ne s'est pas laissé abattre. Il prépare son retour 3 ans après son disque Volver. Rendez-vous avec 13 nouvelles chansons le 26 juin prochain. Benjamin Biolay avec Comment est ta peine.
J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères. Carbone, 3 fois. Tu parlais de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Avec ça, comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Anaïs de Moustier au cœur qu'on entend derrière Benjamin Biolay. Sur Europe 1, Comment est ta peine? C'est le 9e disque de Benjamin Biolay qui s'appelle Grand Prix, qui sortira le 26 juin. Et il annonce une tournée, elle devrait débuter en octobre. Europe 1, il est 5h25 et c'est les doigts dans l'assiette à présent, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Alex Tora.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éleveur de porc à Prades. C'est dans les Pyrénées-Orientales, non loin de Perpignan. Comment allez-vous, Alex?
Eh bien, écoutez, Julien, très très bien.
Oui.
En sortie de crise comme on a connu, écoutez, très bien.
Comment s'est passé le confinement pour vous, d'ailleurs?
Le confinement, une période d'adaptation, hein, comme tout le monde. Mais dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé.
C'est-à-dire que votre activité n'a pas fléchi ?
Non, notre activité n'a pas fléchi, bien au contraire, hein, ça a même augmenté puisqu'on a mis en place un système de livraison à domicile gratuitement.
Ah oui.
Et du coup, ça nous a fait exploser sur les ventes. Et aujourd'hui, on est revenu un petit peu à la normale. Voilà, ça, on peut se reposer un petit peu là.
Oui, ça a été, j'imagine, physique. Tout ça là, c'est ces livraisons à domicile. J'ai lu aussi que vous aviez développé un drive.
Oui, c'est ça. Ben, c'est la mise en place des livraisons à domicile nous ont un petit peu secoué quant au drive, puisqu'il y avait une réelle demande de nos clients qu'on a pu livrer et qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, on a décidé de booster nos ventes avec un drive.
Vous avez fait de la publicité pour prévenir tous vos clients qu'ils pouvaient commander vos produits en ligne désormais ?
Ça va être fait courant de la semaine prochaine, puisque le site sera en place sous 15 jours là. Donc de courant de semaine prochaine, on va mettre en place la communication.
Je suis quand même épaté depuis deux semaines maintenant qu'on a repris ce 5-6 de la réactivité de vous, Alex, mais aussi de tous les autres intervenants dans ces doigts dans l'assiette qui, en l'espace de quelques semaines, ont monté des sites internet, ont bâti des systèmes de livraison à domicile, des drives. C'est quand même assez incroyable. Je suis ravi pour vous que votre chiffre d'affaires, en tout cas, n'ait pas trop souffert de ce confinement. La dernière fois qu'on a eu le plaisir de vous entendre sur cette antenne, Alex, vous nous aviez confié que vous alliez ouvrir un restaurant. J'imagine que c'est quelque peu ralenti, là, ces ambitions, désormais.
Ah ben là, c'est toujours d'actualité, mais effectivement, c'est plus qu'au ralenti, puisque là, il faut attendre de voir un petit peu les mesures mises en place pour les restaurants. Et puis pour tout vous dire aussi, Julien, on a quelques restaurateurs qu'on sert aujourd'hui autour de chez nous qui sont en grande difficulté. Ouais. On va attendre un peu de faire un petit peu de la concurrence à côté. Ouais. On va essayer d'attendre un petit peu quand même.
Vous avez discuté avec eux pour leur octroyer quelques facilités de paiement éventuellement pour la reprise ?
Là, d'une part, le restaurant, on va le laisser de côté pendant quelques temps. Et puis, sur les livraisons qu'on leur fait, on va leur faire de beaux gestes commerciaux pendant une paire de mois là, pour la relance. Donc, je pense que, en fait, eux nous suivent toute l'année.
Ils vous soutiennent toute l'année et c'est le moment de leur rendre l'appareil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Alex Thora, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci aussi de votre soutien auprès des restaurateurs. C'est tout à votre honneur. À très bientôt, Alex, dans Les Doigts dans l'Assiette.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 5h30, présenté par Hélène Zélani, suivi de l'interview actu. On va s'intéresser à tous ces nouveaux déchets qui apparaissent depuis la fin du confinement. Masques, gants, visières de protection, des objets en plastique que l'on voit partout, jetés dans nos rues et même au fond des océans. Alors comment gérer ce problème ? Eh bien, on va en parler dans quelques minutes avec mon invité Laura Châtel de l'association Zero Waste France. Mon cher Laurent Cabrol, quel temps en ce jeudi ?
Peu de choses à dire. Nous avons un temps sec, ensoleillé, sur quasiment toute la France. Je vous parlerai de quelques nuages, soit en Franche-Comté, sur les Alpes du Nord, du Sud, mais enfin, tout ceci est anecdotique, et des nuages aussi sur le massif pyrénéen, mais dans l'ensemble, il fera très beau. Des températures aujourd'hui, 22 à Caen, 23 à Lille et à Nice, 24 à Strasbourg, 25 à Clermont, 26 à Paris, 27 à Lyon, 29 à Toulouse et 30 degrés à Bordeaux.
Voilà. C'est noté, merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Votre journal, c'est maintenant.
Europe 1, il est 5h30.
Je serais très surpris qu'un lycée soit en capacité de réouvrir la semaine prochaine. Il faut du temps pour sonder les familles, pour sonder les équipes, réorganiser l'emploi du temps.
Lycée et collège attendent les arbitrages du gouvernement. Édouard Philippe annonce cet après-midi les conditions de la deuxième phase du déconfinement. Une journée décisive pour le Premier ministre. Derniers arbitrages ce matin lors du Conseil de défense à l'Élysée. L'inquiétude du secteur du bâtiment, difficile de faire payer aux clients les surcoûts liés aux mesures sanitaires. Et puis une vingtaine de piscines publiques pourront bientôt rouvrir. Elles vont tester un nouveau protocole très sévère. Nous irons à La Rochelle où tout est prêt.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quelles seront les conditions de l'acte 2 du déconfinement? Question que vous êtes évidemment très nombreux à vous poser. Pour les réponses, il faudra attendre la conférence de presse d'Edouard Philippe. Ce sera à 17h.
La carte de France pourrait basculer en vert avec deux exceptions, Paris et le Val d'Oise, si on garde les mêmes indicateurs. Pour l'instant, seuls les collèges en zone verte ont rouvert et encore pour les 6e, 5e. Les lycées sont tous fermés. Quelles peuvent être les nouvelles décisions, Virginie Salmen?
Pour les collèges, la réouverture pourrait aller très vite, même dans les zones rouges actuelles, dans un premier temps pour les 6e, 5e. Tout est déjà prêt, liste d'élèves, emploi du temps. 99% des collèges ont même déjà voté leur protocole sanitaire en conseil d'administration. En revanche, pour les lycées, ça semble beaucoup plus compliqué, notamment parce que c'est près de 1000 élèves, deux fois plus qu'un collège, avec une difficulté supplémentaire pour les lycées pro, des ateliers dans lesquels les distances de sécurité sont difficiles à tenir. Alors si le Premier ministre annonce une réouverture le 2 juin, est-ce faisable? Réponse de Bruno Bobkiewicz, proviseur et représentant du SNPDEN.
Absolument pas. Je serais très surpris qu'un lycée soit en capacité de réouvrir la semaine prochaine. Il faut du temps pour sonder les familles, pour sonder les équipes, réorganiser l'emploi du temps. Raisonnablement, il faut plutôt tabler sur une reprise à partir du 8 juin qu'à partir du 2.
Parce qu'il reste une inconnue de taille, les lycées devront-ils rouvrir pour préparer et organiser l'oral du bac de français? Tous les syndicats de profs et les parents d'élèves reçus hier au ministère ont répété qu'ils étaient contre la tenue de l'épreuve, notamment parce qu'un grand nombre des 526 000 candidats n'ont pas pu, selon eux, se préparer correctement depuis chez eux. Certains n'ont même pas eu d'oral blanc.
Virginie Salmen.
Les annonces seront donc très suivies en fin d'après-midi autour d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Une poignée de ministres a travaillé sur ce plan tard hier soir.
Et les discussions ne sont pas terminées, Jean-Rémy Baudeau.
Non, après une longue soirée de travail, c'est ce matin, lors du Conseil de défense à l'Élysée, que les derniers arbitrages seront rendus. Tout y est remis à plat, c'est du coup humain, reconnaît l'entourage du Premier ministre. Dernier choix, sur cette deuxième phase, sur les déclinaisons locales et sur ces cartes très attendues. Les habitants de l'Île-de-France et du quart nord-est du pays veulent savoir si leur département sort du rouge. Mais prudence, de nouveaux critères seront pris en compte, comme par exemple le nombre de tests positifs. Selon un élu proche de Matignon, jusqu'à présent la règle c'était l'interdiction et il y avait des exceptions. On se dirige de plus en plus vers l'inverse, explique-t-il. Collèges, lycées, cafés, restaurants, loisirs, parcs et jardins, les sujets sont nombreux. Concernant les 100 km, la question n'est pas encore tranchée. Seule certitude, selon un membre de l'exécutif, le jour où l'on supprimera cette limite, on n'en remettra pas une à 300 ou 500 km. Matignon prévoit trois phases de déconfinement avant le retour à la vie normale, mais garde le pied sur le frein en cas de reprise de l'épidémie. Le plan du gouvernement est prévu pour être réversible.
Jean-Rémy Baudeau. Et pour cette deuxième phase du déconfinement, le gouvernement compte aussi sur l'application de traçage Stop Covid. L'Assemblée puis le Sénat ont voté pour hier. Elle devrait être téléchargeable dès ce week-end.
Europe 1, il est 5h34.
L'étau devrait donc se desserrer pour les Français à partir de mardi, mais de nombreuses entreprises se demandent encore comment elles vont gérer la suite de la crise, notamment en termes de gestion des mesures sanitaires.
Mesures qui engendrent forcément des coûts supplémentaires. C'est le cas dans le bâtiment. Le redémarrage est très progressif, 60 à 70% de l'activité assurée à l'heure actuelle. Mais l'inquiétude domine, comme pour cet artisan rencontré par Élise Dangean.
Les masques, les gants, les éléments de désinfection, une rotation d'équipe plus importante et une durée de travaux plus longue.
Depuis la reprise de son activité, Alban a dû mettre en place tout un tas de mesures, autant d'ajustements qui ont un coût entre 10 à 20% selon les chantiers. Trop lourd à porter pour cet artisan du bâtiment, mais impossible à répercuter sur ses clients, notamment les particuliers, au risque de les perdre.
Chez un particulier, les prêts bancaires sont montés. Les gens n'ont pas forcément les moyens de financer ça à titre personnel ou de faire modifier leurs prêts bancaires.
Pour tous les devis signés avant l'épidémie, c'est donc plutôt à l'entreprise d'assumer ce surcoût qui pourra ensuite être intégré aux futures négociations. Mais pour le moment, il y a danger, selon Patrick Liebus, président de la Confédération des artisans du bâtiment.
Quand vous travaillez et que vous tournez à perte, le danger, c'est que l'entreprise soit se sépare de salariés, soit disparaisse carrément.
Les professionnels du secteur réclament donc des aides de la part du gouvernement, crédit d'impôt, allègement de charges ou encore TVA
à taux réduit.
Et notez qu'à 6h40, le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu, sera l'invité de Mathieu Béliard.
Fan de brasse-coulée, de papillons ou de crawls, le maillot de bain est au placard depuis la mi-mars et toujours aucune date de réouverture pour les piscines.
Éclairci en vue, tout de même, le ministère des Sports devrait se donner son feu vert avant la fin de la semaine pour 20 villes test avec un nouveau protocole sanitaire.
Oui, protocole très sévère. En tout cas, à La Rochelle, tout est déjà prêt, comme le montre ce reportage de Charles Guyard.
On l'a testé en conditions réelles, au chronomètre à la main.
Ce qu'une trentaine d'agents de la ville de La Rochelle ont testé lundi, c'est le nouveau protocole sanitaire des piscines publiques.
Avec le temps de déshabillage, les personnels sont allés dans l'eau, se sont savonnés, sont revenus, se sont rhabillés.
Ici, dans le bassin Lucien Mélin, 32 nageurs seront donc acceptés par créneau d'une heure et demie à réserver. Dès le trottoir, des pictogrammes déjà collés sur le bitume les guideront jusqu'aux lignes d'eau avec au vestiaire douche savonnée obligatoire. Un agent y veillera. Et une fois dans l'eau, attention, comme pour les plages, on est sur le principe de piscine active. Olivier Lucas, le directeur des équipements sportifs de l'agglomération rochelaise.
Les baigneurs ne peuvent plus s'arrêter au bout de la ligne, prendre le temps de discuter un petit peu entre eux comme ça pouvait être le cas avant. Le mouvement doit être continu de façon à respecter systématiquement la distance entre chaque baigneur. Un baigneur pour 4 mètres carrés.
Et entre chaque session, le site sera totalement nettoyé pendant 30 minutes. Un dispositif qui n'effraie pas Marie. Au contraire, avant la fermeture de la piscine, mi-mars, elle avait l'habitude d'y plonger 3 fois par semaine.
Il y aura un peu plus de contraintes, mais je suis prête à les accepter pour pouvoir retourner à la piscine. J'aurai parmi les premiers inscrits pour réserver mon créneau.
20 villes vont être sélectionnées en métropole et outre-mer pour tester en conditions réelles ce nouveau protocole. La Rochelle, Charles Guyard, Europe 1.
Aux États-Unis, deuxième soirée de manifestation à Minneapolis après la mort de George Floyd, un homme noir de 47 ans tué lors d'une arrestation brutale dont les images sont devenues virales. 4 policiers ont été renvoyés, mais la famille demande qu'il soit inculpé pour meurtre. Donald Trump demande au FBI et au ministère de la Justice de faire la lumière sur cette affaire.
Les États-Unis, où le seuil symbolique des 100 000 morts du Covid-19 vient d'être franchi. L'État de New York concentre à lui seul quasiment le tiers des victimes.
Au Brésil, la pandémie ne cesse de s'aggraver. Plus de 25 000 morts dans le pays d'Amérique latine le plus touché. Mais le président Bolsonaro continue d'appeler à la reprise économique. Il remet en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs. Sécurité avant tout à Cap Canaveral en Floride. La crainte de la foudre a poussé la NASA à reporter le premier vol habité de la fusée SpaceX. Deux astronautes devaient rejoindre la station spatiale internationale. Nouvel essai samedi.
On passe au football et comme on s'y attendait, la fédération rejette une Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine comme les clubs le souhaitaient.
Une grosse déception pour Le Mans et Orléans qui seront relégués en national. Ils dénoncent une décision injuste et cruelle. Du rugby sans ballon ovale ni contact, impossible. Et non, c'est le protocole imposé aux clubs amateurs pour pouvoir reprendre les entraînements.
Entraînements qui ont justement repris cette semaine, y compris chez les jeunes, Axel May.
Pas de ballon, ni mêlée, ni plaquage. Le rugby version déconfinement a un drôle de goût. Capitaine des moins de 19 ans au club de la Couronne, près d'Angoulême, Charles Meyer a rechaussé les crampons sans appréhension aucune dès le week-end dernier.
Ça fait toujours plaisir d'être sur le même terrain, réunis, voilà, même sans être à côté. Le fait de ne pas pouvoir s'approcher trop près, ça c'est un peu compliqué. Puis surtout qu'on ne puisse pas être à plus de 10 à l'entraînement, ça fait bizarre.
Les ballons, eux, arriveront dans la phase 2 du plan de reprise de la Fédération française de rugby. Et pour s'assurer de la bonne application de ces protocoles, elle met en place dans les ligues et les clubs des référents Covid. Cela sera-t-il suffisant pour rassurer les pratiquants, notamment les plus jeunes à la rentrée de septembre? Bertrand Nicole est le président du club de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
Pourquoi finalement on aurait une baisse du nombre de licenciés en septembre puisqu'on est dans la droite ligne de l'éducation nationale? Si les enfants sont admis en récréation et qu'ils reprennent une activité normale, je ne vois pas pourquoi les parents pourraient être inquiétés par le fait d'avoir une proximité liée au rugby.
La Fédération française de rugby vient par ailleurs de publier le calendrier des principaux championnats amateurs seniors, début programmé dès septembre.
Et puis ça a l'air en baisse pour l'encadrement du 15 de France, moins 10% pendant un an, annonce du sélectionneur Fabien Galthié qui précise que cette mesure doit accompagner l'effort de la fédération pour soutenir les clubs.
C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve pour le journal de 7h.
Europe 1, il est 5h40.
On passe aux courses avec les pronostics du Quintet de Thierry Léger. On va où cet après-midi Thierry?
C'est sur l'hippodrome de Clairefontaine, dans des conditions optimales, grâce au professionnalisme d'Axel Maître et de toute son équipe, que va pouvoir se dérouler ce quintet. Et parmi les 13 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic le numéro 10, Écolo, qui certes effectuera une rentrée après 6 mois d'absence, mais je le sais déjà au mieux. On lui opposera le numéro 1, Tonnencourt, pas revu depuis l'automne dernier, mais comme il dépend de l'entraînement d'Edouard Montfort qui ne passe pas pour ronronner le matin, nul doute qu'il va pouvoir d'emblée se distinguer. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 6, Urwald, et 5, Midnight Shine, qui dépendent d'écuries classiques incontournables à ce niveau. Enfin, les numéros 2, Alba Power, 11, Taquendo, 3, Art Collection, et 7, Rimini, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, As, 6, 5, 2, 11, 3 et 7.
Pronostic à retrouver sur notre site europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Europe 1, Julien Pierce.
Masque jetable, gants en latex, visière de protection. La crise du coronavirus est-elle en train de faire exploser notre production de déchets? Pour en parler, Julien, votre invité Laura Châtel, responsable du plaidoyer de l'association Zero Waste France.
Bonjour Laura Châtel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Une image a été particulièrement partagée ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Cette image, elle montre des masques chirurgicaux et des gants en latex au fond de la Méditerranée. Alors on a beaucoup dit que nos émissions de CO2 avaient baissé avec le confinement. Est-ce que désormais cette crise du Covid est à l'inverse en train de se transformer en désastre écologique ?
Ben, en tout cas, sur le volet du plastique et du jetable, c'est effectivement assez inquiétant. Pas tellement ce qui s'est passé pendant le confinement, où finalement les activités économiques étaient arrêtées, les gens étaient chez eux, donc il y avait peu de déchets abandonnés dans la nature, mais plutôt à la faveur du déconfinement, parce que les activités redémarrent, mais sur une base de surutilisation de produits jetables, et puis avec une consommation qui est extérieure, donc avec un risque d'abandon de ces déchets dans la nature qui est bien plus élevé qu'auparavant.
Vous le constatez, ça ? Vous avez des retours, des signalements ?
Oui, alors bien sûr, en tant qu'association environnementale, on est interpellé par les gens qui constatent ça dans leur quotidien, dans la rue. Et puis, il y a effectivement beaucoup de photos qui circulent sur les réseaux sociaux qui alertent sur cette situation. Donc, c'est une situation écologique inquiétante qui est en train de devenir palpable, je pense, pour chacun d'entre nous. Donc, j'espère provoquer aussi une réaction collective pour essayer d'éviter qu'un maximum de ces déchets se retrouvent, en tout cas, dans la nature.
Alors, on ne le sait pas forcément, mais les masques chirurgicaux jetables que l'on voit partout depuis quelques semaines, eh bien, ils sont principalement composés de plastique. Idem pour les flacons de gel hydroalcoolique, les gants, les visières de protection. Ça y est, le tout plastique est redevenu acceptable ?
Oui, alors le plastique était encore très très courant dans notre quotidien. On n'avait pas arrêté d'utiliser des produits en plastique. Mais ce qui avait changé, je pense, ces derniers mois ou ces dernières années, c'était qu'il y avait une prise de conscience. Il y avait vraiment une volonté de sortir du tout plastique et du tout jetable. Et là, à la faveur de la crise, on voit arriver effectivement de nouveau tout un tas de produits, des masques, des protections, des emballages, des lingettes aussi, beaucoup pour le ménage, qui sont composés de plastique. C'est vrai qu'il faut vraiment rappeler que ces produits, parfois, ils ont l'air d'être un peu en papier ou en tissu. En réalité, la plupart du temps, ils sont composés, en tout cas en partie, de plastique. Et ce plastique va mettre des centaines d'années à se dégrader dans l'environnement. Donc vraiment, il faut absolument éviter de les jeter dans la nature. Et puis, quand on peut, quand c'est possible, vraiment essayer d'éviter le jetable et de privilégier une solution réutilisable.
Alors je précise qu'en préparant cette interview, on a contacté les industriels du plastique qui nous ont expliqué que oui, leur production a bien augmenté depuis le confinement, mais que cela ne compensera pas la baisse de demande en plastique dans les autres secteurs. Au final, pour faire clair, on produira moins de plastique en 2020 que les années précédentes. Quoi qu'il en soit, tous ces nouveaux déchets que vous venez de décrire, ils finissent où aujourd'hui, mis à part au fond des mers et des océans ?
Alors, tous ces nouveaux déchets, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont très, très rarement recyclés. Hein, parce que là, on est vraiment sur des nouveaux types de produits qui n'ont en général pas de filière de recyclage. Hein, quand on pense à tous les équipements de protection sanitaire spécifiques, c'est des déchets qui n'ont pas de filière de recyclage. Hors parfois des établissements de santé. Les lingettes, c'est pareil, c'est des déchets qui ne sont pas recyclables. Le suremballage, une partie ne va pas être recyclée parce qu'ils sont beaucoup consommés aussi à l'extérieur. Hein. La vente à emporter explose avec le déconfinement et avec l'interdiction de la restauration sur place. Donc, ces déchets vont terminer en grande majorité dans les décharges ou les incinérateurs, qui sont des usines de traitement des déchets polluants, ou au pire des cas, et c'est bien ce que nous montrent les photos qu'on voit circuler de plus en plus, dans la nature. Là, c'est vraiment encore la pire des solutions.
Que dit le gouvernement à ce sujet ? Est-ce qu'on va revenir, par exemple, sur les mesures déjà votées comme l'interdiction des pailles en plastique ?
Non, alors Pour l'instant, le gouvernement s'est montré assez ferme. Il y a eu des tentatives de lobbying, il y a eu des courriers demandant des reports, voire des annulations de certaines réglementations, que ce soit au niveau français et européen. Pour l'instant, aux deux niveaux, la réponse a été la même, c'est-à-dire on reste sur les calendriers, l'ambition reste la même. Et quelque part, heureusement, j'espère que le gouvernement ne va pas lâcher sur ce point, parce qu'on n'a absolument pas de temps à perdre dans la lutte contre le plastique. Et ce n'est pas, quelque part, cette crise sanitaire qui doit nous faire oublier qu'il y a des enjeux énormes qui nous arrivent en termes environnementaux et même sanitaires. Parce que le plastique, l'accumulation du plastique dans l'environnement peut aussi avoir des conséquences sanitaires pour l'être humain.
Concernant le recyclage que vous avez mentionné, j'ai lu qu'il n'avait en ce moment aucun intérêt d'un point de vue économique, vu le très faible prix du pétrole. En clair, ça coûte plus cher de recycler que de produire de nouveaux objets en plastique. On marche sur la tête, là, quand même.
Oui, bien sûr. Alors, ça peut paraître un peu choquant. En même temps, il faut avouer que le recyclage, de manière générale, ça coûte quand même un peu d'argent. Il faut mettre en place, en fait, la collecte, le tri, la récupération de tous ces déchets pour ensuite pouvoir les recycler. Et donc, effectivement, si en plus de ça, on a un prix de matières premières vierges qui est relativement faible. Alors là, vous ne compenserez pas le coût qu'il a fallu payer pour recycler ces déchets. Et puis en plus, encore une fois, là, on est sur des déchets qui n'ont pas de filière de recyclage existante. Et donc, il faut des investissements, il faut du temps pour monter des filières de recyclage à l'échelle d'un pays comme la France. Donc, de toute façon, là, on est sur des équipements qui clairement, sans doute, ne seront pas recyclés.
Est-ce que vous êtes pessimiste sur l'évolution de la situation?
Non, je suis pas encore pessimiste dans le sens.
Je vous pose cette question parce que cette image qui a été partagée de masques et de gants en latex au fond de la Méditerranée, alors que le déconfinement n'a que 3 semaines, elle peut rendre pessimiste cette image.
Oui, bien sûr, elle peut rendre pessimiste. Et de toute façon, tout témoignage de déchets abandonnés dans la nature, quelque part, ça met toujours un petit coup au moral, parce qu'on se dit que c'est des déchets, ceux-là, qui seront très rarement récupérés et qui vont rester dans l'environnement. Donc c'est un témoignage très visible de cette problématique de la pollution plastique qui est malheureusement généralisée. Ce qui me rend peut-être un peu plus optimiste pour être sur une note un peu d'espoir, c'est que je pense que quand même la prise de conscience là, qui a eu lieu ces derniers mois et cette dernière année sur la pollution plastique, prise de conscience citoyenne, prise de conscience politique, c'est quelque chose de bien plus profond que ces mouvements conjoncturels là, de quelques mois qu'on a. Et quelque part, je vois aussi assez positivement la réaction qui est quand même assez forte. On parle beaucoup aujourd'hui de la pollution plastique, du retour du plastique. Et ça, c'est bon signe. Je pense qu'il y a encore quelques années, ça aurait pu paraître comme totalement normal. Aujourd'hui, au moins, on questionne cet automatisme. Maintenant, il va falloir agir pour essayer d'éviter ce genre de choses à l'avenir.
Merci beaucoup, Laura Châtel, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la responsable du plaidoyer de l'association Zero Waste France. Encore merci et à très bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Omblin, vous allez dans votre partition rendre hommage à un pionnier.
On l'avait surnommé l'architecte du rock'n'roll.
A tout de suite sur Europe 1.
Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique.
J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi.
Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie.
Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Et à 5h49, il est temps d'ouvrir la partition d'Omblin Roche, je dirais même Omblin Rock, ce matin, vu que vous rendez hommage à celui qu'on appelait l'architecte du rock'n'roll, Little Richard, qui nous a quittés le 9 mai dernier.
La question, si tu étais blanc, tu penses que tu aurais pu être Elvis? Il a répondu, si j'étais blanc, il n'y aurait jamais eu d'Elvis. L'icône Little Richard, Julien, fait partie de ceux qui ont créé le rock and roll comme Chuck Berry, Jerry Lee Lewis ou Fats Domino, une fusion jamais vue alors de blues, de gospel, avec cette attaque rythmique au piano, très marquée, venue du boogie-woogie.
In the hello, baby.
bâton de dynamite prêt à exploser, follement extravagant, un chant proche du hurlement, Little Richard finissait en général ses concerts torse nu, debout sur son piano.
Il ne se préoccupait pas de savoir si son attitude charnelle à l'extrême allait faire du tort à sa carrière. Fond de teint, rouge à lèvres, mascara, une coupe de cheveux qui défiait la gravité. Dandy moustachu, il faisait illusion pour masquer un physique disgracieux.
Richard Pennyman grandit dans le vieux sud, efféminé, une jambe plus courte que l'autre. Il subit les moqueries et les coups de ses camarades.
Il est surnommé Little pour sa petite taille. Il a à peine 13 ans quand il est chassé de chez lui en raison, il le dira lui-même plus tard, d'une attirance naissante pour les garçons. Sa voix aiguë, Little Richard va la conserver après la puberté.
Il grave ses premiers 45 tours au début des années 50.
Entouré de son groupe The Upsetters, il faut savoir que certains des plus grands ont fait leurs armes au sein de The Upsetters, ont joué pour Little Richard. Otis Redding, originaire comme lui de Macon en Géorgie, organiste Billy Preston et surtout le guitariste Jimi Hendrix.
Ah oui, quand même. La carrière de Little Richard connaît un tournant décisif lors de l'automne 55.
Avec l'enregistrement de Tutti Frutti.
Des onomatopées exaltées, inspirées par un rythme de batterie et tout ça, ça va faire le tour du monde.
Une référence codée à l'acte sexuel, le texte grivois et provoquant est à peine dissimulé, mais suffisamment pour ne pas choquer les foules. Tutti Frutti est désormais sa carte de visite. L'essentiel du répertoire de Little Richard est concentré sur les trois années suivantes.
Et puis en octobre 1957, lors d'une tournée en Australie, il a des visions nocturnes.
Il décide d'abandonner la musique du diable pour se consacrer à Dieu. Désormais, jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessera de faire des allers-retours entre le rock'n'roll et le spirituel. Good Golly Miss Molly est enregistré juste avant que Little Richard devienne le pasteur Pennyman. Du rock'n'roll, Little Richard, Good Golly Miss Molly sur Europe 1, un géant sauvage qui nous a quitté le 9 mai dernier. Little Richard avait 87 ans.
Elle nous donne une pêche incroyable chaque matin grâce à sa partition. Merci beaucoup, Omblin Roche.
Europe 1.
Dans un instant, votre matinale va se poursuivre dans une ambiance brûlante. Mathieu Béliard n'a pas réussi hier soir à allumer son barbecue, alors ce matin, il est prêt à tout enflammer.
J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin.
Oui, mon colonel. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.
Avec Renault Pro Plus, parlons des professionnels. Anne, par exemple, est agent immobilier. Elle fait toutes ses visites en voiture et elle ne paye ni l'essence ni le parking.
Bah, ça, c'est parce que je roule en électrique.
J'y viens. C'est depuis qu'Anne est passée à l'électrique avec Renault Pro Plus qu'elle fait de réelles économies sur ses frais de déplacement et maîtrise mieux son budget.
Et c'est ça qui compte.
Avec Renault Pro Plus, changez d'énergie sans rien changer à votre business. Avantages économiques disponibles sur Renault.fr.
Europe 1, il est 5h55. La matinale se poursuit avec Julien Pierce et Mathieu Béliard.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Julien.